3h ici à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une, ils avaient tenté de briser le blocus maritime israélien sur Gaza. Les militants du voilier humanitaire Madeleine viennent d'être transférés à l'aéroport de Tel Aviv pour être rapatriés. Annonce du ministère israélien des Affaires étrangères. Ce lundi soir, de nombreuses manifestations ont eu lieu en France en soutien à l'équipage. La conférence mondiale sur les océans à Nice s'est ouverte ce lundi. L'objectif est de déboucher sur des engagements concrets d'État pour protéger les océans. Mais le changement climatique et les tensions géopolitiques menacent ce bien commun, vous l'entendrez. Et puis nous serons également au Kenya, où un militaire britannique est accusé de viol. Il a été arrêté ce dimanche. Les militants du voilier humanitaire Madeleine viennent d'être transférés à l'aéroport de Tel Aviv pour être rapatriés. Ils avaient tenté de briser le blocus maritime israélien sur Gaza avant d'être déroutés vers le port d'Ashdod en Israël. Une arrestation illégale selon l'équipage. Parmi les membres de cet équipage, l'eurodéputé Rima Hassan et la suédoise Greta Thunberg. Alors en soutien, ce lundi soir, plusieurs partis politiques français et ONG avaient appelé à des mobilisations en soutien à cet équipage. Reportage à Paris de Théo Renaudon à la rencontre des militants.
Là-bas, il y a une pancarte avec le portrait d'un homme imprimé en noir et blanc. On va essayer d'aller voir celle qui le brandit.
Bonjour.
Votre prénom ?
Lisa. C'est un portrait de Yanis Mabdi, qui est journaliste pour Blast et qui a été kidnappé.
Donc un média français.
Qui a été kidnappé ce matin par Israël alors qu'il faisait partie de l'équipage de la flotilla pour Gaza.
C'est maintenir la pression, ce rassemblement.
De dire qu'on lâche pas, qu'on partira pas tant que Rima n'est pas libérée, tant que nos camarades ne sont pas libérés et que voilà quoi.
Emmanuel Macron a appelé au rapatriement au plus vite des Français de l'équipage. Pour vous, c'est quoi ? C'est une réaction qui est trop tiède ?
Nous ne demandons pas à notre président Macron d'intervenir pour la libération des 12 du Madeleine. Nous lui demandons d'intervenir pour que le Madeleine puisse repartir avec son équipage pour aller à Gaza.
Je dis qu'ils ont réussi leur entreprise.
Devant un mur de caméra, Jean-Luc Mélenchon, principale voix pro-palestinienne en France. Pour lui, l'opération a mis en lumière le blocus maritime israélien sur Gaza.
Car ils ont en une nuit obtenu et fait davantage que n'avait fait le gouvernement français et tous les gouvernements du monde pour mettre en cause la politique criminelle de M. Netanyahou.
Du voilier humanitaire Madeleine viennent donc d'être transférés à l'aéroport de Tel Aviv pour être rapatriés. Au total, ce lundi soir, 172 rassemblements ont été recensés en France. La France insoumise revendique 158 000 manifestants en France, dont 50 000 à Paris. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec Donald Trump. Le président américain indique avoir transmis à Téhéran une offre raisonnable dans le cadre de leurs discussions sur le programme nucléaire iranien. Une réponse est attendue dans les prochains jours. Les discussions butent toujours sur la question de l'enrichissement d'uranium iranien. Washington tente de conclure un accord censé empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, et ce en échange d'une levée des sanctions qui paralyse l'économie iranienne. Une soixantaine de dirigeants venus du monde entier. La conférence mondiale sur les océans à Nice est ouverte ce lundi. Elle doit durer 5 jours. L'objectif est de déboucher sur des engagements concrets d'État pour protéger les océans. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement rappelle que l'économie des océans est le moteur essentiel du commerce mondial. Mais le changement climatique et les tensions géopolitiques menacent ce bien commun. Agnieszka Kumor.
L'économie des océans, qui comprend de nombreux secteurs tels que le transport maritime, le tourisme, la pêche ou encore l'énergie maritime, pèse 2200 milliards de dollars et contribue à la prospérité mondiale. Cette économie alimente les chaînes d'approvisionnement, soutient l'emploi et les systèmes alimentaires, stimule l'innovation. Mais aujourd'hui, ce bien commun est en danger, estime la CNUSED. Le niveau des mers s'élève, les eaux sont polluées par le plastique, la biodiversité s'appauvrit. Tous ces changements affectent les infrastructures portuaires, le transport maritime et la vie des communautés côtières. De même, les nouveaux droits de douane ne font que détourner les investissements des secteurs océaniques durables. Pour redresser la situation, la CNUSED appelle à prendre des mesures qui aideraient à moderniser les infrastructures maritimes, mais aussi à mettre fin aux subventions qui nuisent aux écosystèmes océaniques. britannique. Il faudrait par ailleurs combler un vide juridique sur la haute mer afin de permettre un commerce plus équitable pour les pays en développement.
C'est l'un des rares résultats des récents pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Un nouvel échange de prisonniers va avoir lieu. Pas d'indication sur le nombre de soldats concernés, mais cet échange se déroulera dans les prochains jours. Un échange qui avait été décidé au cours d'un deuxième cycle de négociations directes à Istanbul le 2 juin dernier. Moscou et Kiev avaient convenu de libérer tous les prisonniers de guerre grièvement blessés et ceux âgés de moins de 25 ans. Pendant ce temps, des attaques aériennes russes massives ont visé dans la nuit de lundi à mardi les villes ukrainiennes de Kiev et d'Odessa, faisant un mort et touchant notamment une maternité, annonce des autorités locales ukrainiennes. Direction le Kenya où un militaire britannique est accusé de viol. Il a été arrêté ce dimanche. Nouvelle affaire concernant la Batouk, cette unité de formation de l'armée britannique basée à Nanyuki, au nord de Nairobi. L'arrestation a été confirmée par Londres. Les précisions d'Eva Massi.
Les faits se seraient produits à proximité du camp militaire britannique à Nanyuki, au nord de Nairobi. Quelques heures avant le viol présumé, le principal suspect, un militaire britannique de la garnison, se trouvait avec d'autres soldats dans un bar de la ville. Il a été arrêté ce dimanche, Londres a confirmé l'arrestation et sans donner plus de précisions, annonce avoir ouvert une enquête. Une affaire qui pourrait bien raviver les tensions autour de la garnison britannique, souvent critiquée. En 2012, la jeune Kenyane Agnes Wanjiru a été retrouvée morte après avoir été vue avec un soldat britannique. L'affaire relancée en 2021 suite à des révélations du Sunday Times n'a jamais conduit à une arrestation. Et c'est début avril que le ministre britannique de la Défense a rencontré pour la première fois la famille de la victime en promettant de coopérer pleinement avec les autorités kényanes. Les plaintes pour viol concernant la garnison britannique s'accumulent, 650 au total entre 1965 et 2001, des données recensées par Amnesty International qui dénoncent des décennies d'impunité pour l'armée britannique.
En Colombie, le dispositif de sécurité du candidat Miguel Uribe, blessé par balle, a été étrangement réduit, selon le président colombien Gustavo Petro. Le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie ajoute avoir demandé lors d'un conseil de sécurité la plus grande rigueur dans l'enquête sur cet événement. Miguel Uribe, sénateur de droite et prétendant à la présidence en vue des élections de mai 2026, a été touché par deux balles à la tête et une au genou alors qu'il était en meeting dans la capitale ce samedi. Il est toujours en soins intensifs. L'auteur des coups de feu serait un adolescent de 15 ans. En sport, bonne nouvelle du côté des finances pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité d'organisation a annoncé un bénéfice bien plus important que prévu. Il s'élève à 76 millions d'euros. Les explications de Solène Ravenel.
À quelques jours de la clôture des comptes du comité d'organisation, celui-ci a revu à la hausse son bénéfice. Tony Estanguet, président du COJO, a donc annoncé un excédent budgétaire de 76 millions d'euros, presque trois fois plus élevé que le montant de 26 millions avancé en décembre dernier. Il s'agit principalement de revenus privés, issus de la billetterie, des sponsors et des droits médias reversés par le Comité international olympique. Cette annonce est une bonne nouvelle pour Paris 2024, d'abord parce que les comités d'organisation dégagent rarement des bénéfices. La dernière fois, c'était lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec un bénéfice de 36 millions d'euros. Mais aussi parce que c'est de l'argent qui va au sport français, explique Tony Estanguet, puisque 80% de ce bénéfice sera reversé pour financer les athlètes et les projets sportifs en France, notamment ceux lancés par Paris 2024, comme la journée paralympique ou l'apprentissage de la natation pour tous. Par ailleurs, plus de 15 millions d'euros seront reversés au Comité national olympique, une manne bienvenue alors qu'après les Jeux, le ministère a largement coupé les subventions publiques versées à l'instance.
Toujours en sport, les dirigeants de l'Inter Milan tentent un sacré pari. Ils ont confié ce lundi leur équipe finaliste de la Ligue des Champions à Christian Chivu. Cet ancien Nerazzurri n'a qu'une poignée de matchs de Serie A à son actif en tant qu'entraîneur. Il remplace Simone Inzaghi, parti entraîner le club saoudien d'Al Hilal. Et puis, c'était un pionnier du funk. Sly Stone est décédé à l'âge de 82 ans. L'artiste avait notamment donné un concert mémorable avec son groupe lors du festival de Woodstock. C'était en août 1969. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI bientôt 3h10, ici à Paris, 1h10 en temps universel.